VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Abidjan, 18h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Le pape François est à Nairobi au Kenya, première étape de sa tournée en Afrique. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le président Uhuru Kenyatta et un chœur de chanteurs et de danseurs. Les autorités kenyanes ont déployé quelques 10 000 soldats et policiers pour assurer sa sécurité pendant cette visite, où le Saint-Père devrait notamment plaider pour le dialogue interreligieux et dénoncer l'écart entre les riches et les pauvres. Après le Kenya, le pape François se rendra en Ouganda. Sa dernière étape africaine sera la Centrafrique, où un nouveau durcissement du conflit intercommunautaire est signalé à quelques jours de son arrivée. Les miliciens anti-Balaka, appuyés par d'anciens soldats de l'armée, imposent un véritable blocus aux musulmans retranchés au quartier PK5 de Bangui, qui ne peuvent sortir, selon l'AFP, pour s'approvisionner sans risquer de se faire tuer. Jean-Roger Bion.
C'est dans ce contexte de blocus permanent et explosif que le pape François est attendu ce dimanche à Bangui. Il doit notamment se rendre dans la grande mosquée du PK5, comme l'avait fait le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, en 2014. Des entretiens ont lieu entre les dignitaires religieux musulmans du PK5 et l'archevêque de Bangui pour sécuriser au maximum les lieux dans l'optique de la visite du pape. Pour l'instant, les miliciens qui assiègent les musulmans n'entendent pas relâcher la pression, dressant des barricades dans les rues, ponctuellement levées par la MINUSCA et vite remises après le passage des véhicules de l'ONU.
Pour des précisions sur le message du pape François pendant sa tournée en Afrique, Eric Maniracusa a joint à Ngozi Monseigneur Gervais Banchimi Yubusa, président de la conférence épiscopale catholique du Burundi.
Le message qu'il a donné, c'est un message évangélique. Et l'évangile est toujours en train de parler de justice, de vérité, d'appel à la paix. Alors, dans la mesure où nous savons ouvrir nos cœurs comme chrétiens, en sachant que celui qui vient, c'est un envoyé de Dieu, c'est un apôtre, nous pourrons certainement y trouver des possibilités d'aller de l'avant en améliorant ce qui doit l'être, en corrigeant même certaines choses qu'il faut corriger.
L'Église catholique est très impliquée dans la vie sociale des chrétiens, mais de toute la population en général, mais elle est aussi critiquée par certains dirigeants comme quoi elle s'implique dans des actions politiques. Est-ce que la venue du pape peut donner un message pour confirmer cette doctrine de l'Église?
L'Église catholique, naturellement, doit essayer de tenir compte de ses critiques. Mais elle sait aussi que depuis même celui qui l'a fondé, Jésus-Christ, il y a ces critiques. Il y en a même qui critiquent parce qu'ils ne sont pas contents qu'on est en train de démasquer les travers dans lesquels ils se trouvent. S'il se trouve qu'en annonçant l'Évangile, elle doit être critiquée, elle accepte d'être critiquée, mais elle ne peut pas laisser croiser les bras quand elle voit qu'il y a des situations d'injustice, des situations de mensonges, des situations de corruption, des situations de violence. Elle doit toujours crier et prier et impliquer les chrétiens afin que ce genre de situation puisse être changé.
Monseigneur Gervais Banchimi Yubusa, président de la conférence épiscopale catholique du Burundi. Afrique de l'Ouest maintenant, crise malienne, l'Allemagne veut envoyer jusqu'à 650 soldats au Mali. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre allemande de la Défense, Ursula von der Leyen. Objectif, soulager la France, engagée en Syrie contre le groupe djihadiste État islamique. Il s'agit d'une force de 650 soldats pour appuyer la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, et favoriser la mise en œuvre d'un accord de paix entre le gouvernement malien et les rebelles du nord du pays. Ce sera la première fois que des troupes allemandes de maintien de la paix seront déployées en Afrique. Et puis au Burkina, les électeurs se rendent aux urnes dimanche pour choisir un nouveau président, le premier chef de l'État en plus de deux décennies, autre que Blaise Compaoré, chassé du pouvoir il y a plus d'un an. Pour le journaliste burkinabé Bourema Sigué, fondateur du quotidien Le Pays, il s'agit d'un scrutin inédit qui promet une participation record.
C'est la première fois qu'un scrutin est aussi ouvert. Et c'est la première fois qu'un scrutin déchaîne autant d'engouement, produit autant d'engouement et de mobilisation jusque dans les confins du territoire. Je pense que si Blaise Compaoré était là, il n'aurait pas eu autant d'engouement, autant de mobilisation, parce que certains se diraient tout simplement que l'élection est déjà pliée plié et que ça ne sert à rien de se mobiliser.
Le journaliste Bourayma Sigué au micro de notre envoyé spécial au Burkina, Bagassi Koura.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Cinq pays d'Afrique de l'Ouest sont convenus avec l'ONU et Interpol d'intensifier la lutte contre le trafic de la drogue. Ils ont décidé de développer des unités spécialisées dans la criminalité transnationale. Plus de détails avec Claire Morin-Gibourg.
Au cours de cette réunion de haut niveau à Bissau, le représentant de l'ONU a tenu à saluer les progrès accomplis par la Guinée-Bissau, longtemps plaque tournante de la drogue d'Amérique latine à destination de l'Europe. L'élection du président José Mario Vaz l'année dernière aurait permis cette nette amélioration, ainsi que les UTC, les unités spécialisées dans la criminalité transnationale, dont est dotée la Guinée-Bissau, mais aussi le Libéria et la Sierra Leone. La Côte d'Ivoire et la Guinée, pays également présents, ont été invités à se doter de ces mêmes UTC qui, selon le délégué onusien Pierre Lapaque, permettent de mieux centraliser les informations pour lutter efficacement contre le trafic de drogue et le crime organisé. Seule zone d'ombre au tableau, plusieurs experts ont averti, la production des méthamphétamines est en hausse dans plusieurs pays de la sous-région.
En Gambie, le président Yahya Jammeh a décrété l'interdiction de l'excision avec effet immédiat. Le chef de l'État gambien a souligné que cette pratique très répandue dans le pays n'était pas dictée par l'islam et devait, par conséquent, être abolie. La lutte contre le terrorisme maintenant. Au Niger, le Festival international de la mode africaine, le FIMA, reporté sine die par crainte d'attaques terroristes. Grand rendez-vous des créateurs africains, ce festival devait s'ouvrir aujourd'hui à Niamey. On écoute Alpha Di, l'organisateur du FIMA.
Moi, Alpha Di, et surtout mon gouvernement, compatis à ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, et ce qui s'est passé au Mali surtout. Cette compassion a été que je suis obligé d'accompagner mon gouvernement qui a décidé aujourd'hui de reporter le FIMA à une date ultérieure. Parce que ce qui se passe aujourd'hui à côté de chez moi au Mali, ce qui se passe aussi aujourd'hui à Difa, au Tchad, au Cameroun, en France, en Belgique, nous sommes obligés aujourd'hui de donner aussi, nous aussi, notre voix pour que la paix soit totale. J'accepte cette volonté pour que mon peuple ne souffre pas, pour que l'Afrique ne souffre pas, pour que ce festival puisse se faire dans des conditions magnifiques, pour que tout le monde puisse en bénéficier.
Alpha Di, propos recueillis à Niamey par notre correspondant Abdulrazak Idrissa. Toujours concernant la lutte contre le terrorisme, en Tunisie, le groupe État islamique a revendiqué l'attentat d'hier contre un bus de la sécurité présidentielle dans le centre de la capitale Tunis. Une attaque ayant fait 13 morts, Lionel Gaïma.
L'auteur de l'attaque est un Tunisien identifié comme Abdou Abdallah al-Tunisi. Selon le communiqué du groupe État islamique, il était muni d'une ceinture d'explosifs, il s'est introduit dans le véhicule et s'est fait exploser. Le groupe djihadiste a publié une photo d'un homme habillé en blanc, portant une ceinture d'explosifs, la main levée et le visage recouvert. Les djihadistes affirment que 20 personnes ont été tuées, mais selon le bilan officiel, 12 agents de la garde présidentielle sont morts. L'état d'urgence a été réinstauré pour 30 jours, un couvre-feu est en vigueur à Tunis. Le président Bejikaïd Essebsi a déclaré que son pays était en guerre et a appelé la communauté internationale à faire front commun contre le terrorisme.
En Belgique, la capitale Bruxelles reprend peu à peu la vie normale malgré le maintien de l'alerte terroriste à son niveau maximal. Il y a eu le redémarrage progressif des lignes de métro et la réouverture des écoles sous étroite surveillance policière. Quelques 300 policiers supplémentaires ont été mobilisés pour la protection des établissements d'enseignement de l'agglomération bruxelloise et quelques 200 militaires supplémentaires ont été affectés à la sécurisation du métro. C'est ce qu'a précisé le ministère de l'Intérieur, qui s'est refusé à donner des détails sur le nombre total des forces de l'ordre déployées. Et enfin, l'armée américaine a assuré que la cause du raid contre un hôpital de Médecins sans frontières qui a fait 30 morts à Kunduz en Afghanistan en octobre était avant tout une erreur humaine. Il s'est engagé à sanctionner les responsables. L'accident tragique mais évitable a été causé par l'erreur humaine, a indiqué le général américain John Campbell en annonçant les conclusions de l'enquête. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.